Studio 158 en direct, on donne la parole aux invités. Voici Gaëtan Bussière.
C-H-G-A. Madame Marlène Tonnard, bien le bonjour.
Bon matin, Gaëtan.
Comment va?
Ça va très bien, merci.
Bon, super. On a des belles journées pour faire des randonnées. Pas trop de chaleur, rien de tout ça.
Tout à fait.
Et dans la forêt, ben c'est quelques degrés moindres que dans une ville, dans un village, finalement, en raison de la présence des arbres et tout ça. Oui. Vous vouliez d'abord et avant tout, dans le cadre de cette chronique hebdomadaire, faire un suivi par rapport à de l'information que vous avez donnée la semaine dernière sur les tourbières.
Oui, j'ai introduit le sujet en expliquant aux auditeurs qu'est-ce qu'une tourbière, qui est un milieu où on trouve plus de 30 cm d'épaisseur, parfois jusqu'à plusieurs mètres de matière organique actuelle.
Ouais, c'est impressionnant.
Alors, à quoi donc reconnaître une tourbière? Alors, pour les gens qui ont un petit peu de connaissance dans la végétation qui pousse en forêt, bien, s'il y a du thé de Labrador en abondance, quelques petites plantes carnivores, des orchidées, de la mousse brune, eh bien, il y a des chances que ce soit une tourbière. Les sols sont gorgés d'eau et ces sentiers sont extrêmement boueux, surtout au printemps. Donc, effectivement, là, si vous notez que vous êtes sur un sentier très boueux puis que vous avez ces indices-là, vous êtes sur une tourbière. Par contre, même si en apparence les tourbières sont monotones, eh bien, elles recèlent une foule d'espèces rares, des insectes, des grenouilles, des araignées, des oiseaux, des petits mammifères, etc. Donc, ce sont des écosystèmes qui sont quand même très importants et qu'il faut respecter. Au niveau des arbres, on parle aussi qu'il y a des tourbières forestières. Ah. Alors, quand il y a de la pruche, du sapin, du mélèze, de l'épinette, ce sont des arbres typiques de tourbières forestières.
OK, c'est là que ça pousse.
C'est notamment là qu'on peut s'attendre à trouver une tourbière. Et par contre, on a des pins, des pins rouges, des grands pins, ce sont des arbres qui supportent très peu l'humidité. Donc, il n'y a pas de tourbière quand il y a beaucoup de pins.
Quelles essences, répétez-nous celles-là?
Donc, le pin rouge, le grand pin, etc., sont des essences qui ne supportent pas bien l'humidité.
Donc, c'est sûr que ça ne pousse pas là.
Contrairement à la pruche, le mélèze, l'épinette, puis le sapin.
OK.
Il faut aussi comprendre que ces tourbières-là sont des éponges au service de la nature parce que elles fournissent des services écologiques essentiels. Elles ralentissent les crues. Elles aident aussi à ralentir les sécheresses en retournant l'eau vers les rivières. Ces tourbières jouent également un rôle important dans le cycle du carbone. D'abord parce qu'elles captent le CO2 par la photosynthèse. Mais ensuite, parce qu'elles ne génèrent pas de décomposition. Donc, le carbone reste séquestré et s'accumule dans les couches de la tourbe.
Intéressant, oui.
Bien sûr, à ce moment-là, on dit que c'est pour ça qu'elles participent à la diminution des changements climatiques.
Absolument, ben oui.
Oui, tout à fait. Donc, dans les tourbières forestières, la tourbe séquestre plus de carbone que les arbres. Ça, j'ai appris cela.
Ah, oui?
Oui. Alors, pourtant, on dit que les arbres sont réputés comme étant des champions de la capture des gaz à effet de serre.
Oui.
Mais les tourbières le sont encore plus.
OK. D'où l'importance de les préserver.
Oui. Et effectivement, il faut les protéger, il faut les préserver. Et souvent, même chez nous, des fois, quand on a un grand terrain, on ignore qu'on a une tourbière chez nous.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est important de pouvoir éventuellement, effectivement, les reconnaître. Et souvent, dans les sentiers pédestres, quand on a à passer sur un pont ou une passerelle qui est faite en bois puis qui est sur des pilotis, il y a des grandes chances qu'en dessous de ce pont-là, ce sont des tourbières.
OK, excellent. Bien, ce sera effectivement un élément additionnel à découvrir ou redécouvrir lors de nos prochaines randonnées.
Ouvrez l'œil, c'est bien ça, effectivement.
Absolument. Des trouvailles à nous faire part pour les randonneurs?
Ben oui, la semaine passée, j'ai parlé de vêtements qui sont allergiques, en fait, aux moustiques.
Oui.
Ce sont quand même du matériel qui coûte un certain montant d'argent.
Et un investissement
à faire. Moi, j'ai expérimenté quelque chose cette semaine.
OK.
On est allé marcher dans les sentiers numéro 3, 4, 5 et 6. Du Mont-Morissette. Évidemment, on est dans une période où il y a encore des secteurs qui sont boueux un peu.
Oui.
Il a plu beaucoup. Hein,
donc, oui, beaucoup d'humidité.
C'est pas tout à fait encore évaporé, etc. Donc, il y a des moustiques, il y a un peu de bibitte. Et là, je me suis gréée d'un petit produit qu'on vend chez Denis Côté. C'est des huiles essentielles qui sont mélangées avec un produit qui a la même efficacité qu'un DEET, dans le fond, et donc qui est meilleur pour la peau.
Tout à fait.
Ben, je l'ai expérimenté, je m'en suis mise dans le cou et sur les bras parce que je ne portais pas de manches longues.
OK.
Excellent.
Ah oui?
Excellent. Pour ceux qui
vous
veulent...
avez l'air impressionné.
Ah oui, oui. Moi, écoute, il tournait autour de moi, mais il n'osait pas se poser sur moi. Là. Fait que ça marche. C'est un produit qui fonctionne. Fait que je le partage avec les auditeurs. On l'a chez nous, chez Denis Côté. Oui. On peut, et c'est de l'huile essentielle. C'est pas dommageable pour la peau.
OK.
Donc, je vous
encourage
à l'essayer.
Si on arrive là, on dit l'huile essentielle anti-moustique. Il veut, oui. C'est probablement le produit qu'il va nous donner.
Oui, tout à fait. Il l'a en spray, puis il l'a en petite crème aussi.
Ah,
moi,
ben
je l'ai
voyons.
Utilisé en petite crème.
C'est bien le fun. En plus, c'est local.
C'est local.
C'est un
voilà.
produit naturel, en plus.
Oui.
Super.
Oui.
Ensuite, on voulait parler de l'entretien des sentiers, voilà.
Ben oui, on est en plein dedans, évidemment. Ben oui. On vient de commencer la deuxième ronde d'entretien. On est à Montserre-Flitton, où on avait commencé au mois de mai. Il faut évidemment que les randonneurs comprennent qu'on ne peut pas faire tous les sentiers en même temps et qu'avec la quantité de pluie qu'on a eue, bien sûr, la végétation, elle a eu beaucoup de plaisir à reprendre ses droits.
Oui, la végétation est luxuriante. Oui. Ouais.
C'est ça. Mais là, on recommence la deuxième ronde déjà. Donc, on est à Montserre-Flitton pour toute la semaine. Alors, j'invite les gens en fin de semaine à pouvoir aller profiter de ces sentiers-là. Les sentiers du Mont-Morissette, on les a terminés lundi complètement, surtout le sentier numéro 3 qui avait besoin de beaucoup d'amour. 4, 5, 6. Les nouveaux 4, 5, 6 sont vraiment maintenant très praticables, avec quelques petits spots de boîte encore. Là, c'est vraiment beau. J'ai été les faire.
Là, c'est inévitable avec la pluie. Là,
oui, oui, oui. Alors, allez-y. Ce sont des beaux sentiers qui sont maintenant bien nettoyés.
Il y a toujours de l'entretien parce qu'on a eu quand même quelques bonnes journées avec des bons vents. Donc, souvent, ça fait en sorte que malheureusement, il y a des arbres qui tombent à gauche et à droite.
Oui,
dans
on
la,
a eu
dans
à en
bois.
Enlever 3 dans le sentier numéro 2. Là,
OK,
mais c'est
OK.
Fait, là, non, c'est très, très bien.
Tout est bien praticable.
C'est tout à fait praticable dans ces sentiers-là, en tout cas. Les autres, on va procéder progressivement.
Au fur et à mesure, en plein sort. Ça ne veut pas dire que c'est fermé, c'est que finalement, on pourrait se retrouver devant un arbre qui est devant nous, puis le contourner, tout simplement.
Effectivement, tout à fait.
OK, des conseils aux utilisateurs?
Mais justement, si jamais vous voyez dans certains sentiers des choses particulières, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Messenger, du Perrault. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a contactée la semaine passée pour me parler de Montserre-Flitton. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire pour nous dire « j'ai vu telle affaire ». Bon, et comme ça, mon équipe, quand elle va faire l'entretien, elle est éveillée.
On ne va pas juste se plaindre du problème qu'on a vécu. On le signale.
Mais on est tous... Écoute, c'est gratuit. On fait tous partie de cette communauté de marcheurs. Donc, aidons-nous, entraidons-nous.
On a un réseau extraordinaire qui est gratuit. Vous le répétez parce qu'il y a dans certaines régions du Québec où on doit débourser pour accéder à des sentiers du genre.
Tout à fait. Donc, j'encourage beaucoup les gens à nous écrire s'ils y voient effectivement des choses qui sont importantes pour nous.
Excellent. Et un mot sur une recherche de bénévoles, on a besoin de paires de bras?
On a mis sur notre site appel aux bénévoles en lien avec le futur défi coureur des bois qu'on repart cette année.
Oui.
Donc, le premier étant le 21 août à Sainte-Thérèse-la-Gatineau.
Il y a une activité en août, une en septembre et l'autre en octobre.
C'est bien ça, effectivement, à toutes les trois semaines à partir de... Alors, on a besoin de bénévoles pour sécuriser les coureurs dans les sentiers. Fait que si vous allez sur notre site web, il y a un pop-up. Et vous allez tout simplement vous inscrire, donner votre nom, numéro de téléphone. Puis on a des gens qui s'occupent de cela dans notre équipe de bénévoles et qui vont les contacter pour une formation éventuelle. Donc, on a besoin une bonne dizaine de bénévoles.
C'est pas plus compliqué que ça.
C'est ça.
Un gros merci, Marlène Tonnard.
Merci beaucoup
merci
et bonne semaine et bonne randonnée.